Bonsoir, comment allez-vous? Avez-vous votre calendrier de l'Avent AVENT? Car il ne s'agit pas d'avant, le contraire d'après, mais d'avant Adventus, l'arrivée. On ne l'emploie jamais. On ne dit pas l'avant du Paris-Marseille est prévu à 19h48 gare Saint-Charles. Car ce mot ne marche que pour l'arrivée de Jésus prévu le 25 décembre. Enfin, je dis prévu. On sait très bien quand il va naître puisqu'il est déjà né. Et même ça fait un moment. L'avant, c'est l'attente autrefois des chrétiens, maintenant de tous. Tant mieux, profitons des bons côtés de toutes les religions. Moi, je me régale des gâteaux du Ramadan, des décorations de Noël, des chandeliers juifs, des tambours vaudous. Si Dieu existe, il est là pour tout le monde. Et s'il n'existe pas, il n'est là pour personne. Donc, qu'avez-vous dans votre calendrier de l'Avent? Enfant, j'avais juste des images, mais elles me transportaient. Mes enfants à moi ont eu des chocolats, ce n'était pas très excitant. Dans le métro, j'ai vu une publicité pour un calendrier de l'Avent avec des bières. Ça doit être encombrant, un calendrier comme ça. Comment le fixer? On ne peut pas le mettre au mur avec une punaise. Oh, c'est pas très grave puisque sa place est dans le frigo. Ce calendrier n'est plus une décoration de Noël. Il n'est plus pour les enfants. C'est un calendrier de l'après. De l'après-mystère. De l'après-magie. Ce que découvrent ses portes se trouve dans tous les magasins avec un code barre. À quand un Père Noël qui se déplacera en scooter?
Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi le Père Noël ne meurt pas. Merci de me répondre, au revoir.
Allô, bonjour, je m'appelle Maëlys et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir si le Père Noël a toujours été vieux. Merci, au revoir.
Bonsoir Noémie et Maëlys, Bernadette Bricou, professeure de littérature orale.
Merveilleuse question. Merveilleuse question sur un personnage qui me tient vraiment à cœur, Noémie et Maëlys. Alors, le Père Noël d'abord a-t-il toujours été vieux? Oui, parce que c'est un père, et parce que c'est un père qui est inscrit dans la mémoire des hommes. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'il a un manteau d'écarlate, qu'il se déplace sur un traîneau dans le ciel, qu'il va s'arrêter sur le toit des maisons pendant la nuit de Noël, qu'il entrera par la cheminée, qu'il boira peut-être le petit verre de rhum que vous avez préparé pour lui, qu'il essuiera le nez rouge de son petit renne qui était présent dans une chanson que vous ne connaissez peut-être pas, le petit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon, et qu'il repartira après avoir déposé les cadeaux comme il était venu. Alors, ce Père Noël, c'est un père, c'est un roi, c'est un dieu. C'est vraiment une divinité qui nous accompagne dès l'enfance, et les divinités que nous côtoyons dans l'enfance, elles ont une grande importance parce que d'une certaine manière, elles nous préparent au pouvoir de l'imaginaire, au pouvoir de la poésie. Et elles nous préparent aussi, avec le Père Noël, à quelque chose qui est de l'ordre de la gratuité. Le Père Noël, qui est vieux, il est vrai, puisque c'est un père, on ne l'imagine pas petit, même si dans les téléfilms de Noël, il a souvent une épouse, qui est la mère Noël, avec laquelle il se dispute parfois, et parfois même des enfants, une fille qui va prendre le relais quand il est malade. Il n'a jamais été enfant, parce que il accompagne au fond ce don magnifique, qui est en même temps le mystère de la nuit de Noël. Quelque chose va être donné. Alors, dans les traditions orales, on disait que c'était une récompense, traditionnellement. Le Père Noël récompensait les enfants sages, alors que le Père Fouettard ou le Croque-Mitaine allaient les punir. Mais aujourd'hui, on a vraiment retenu que la notion du don, le don de Noël que l'on va trouver au pied du sapin, eh bien, c'est un cadeau qui t'est donné par quelqu'un que tu ne verras jamais. Tu ne sais pas d'où ce cadeau vient. Peut-être l'avais-tu demandé dans ta lettre au Père Noël. Parfois, ce n'est pas le cadeau que l'on avait demandé. Mais il n'importe. Quelqu'un est venu que tu ne connais pas et qui a déposé au pied du sapin un cadeau pour toi. Ce cadeau, il n'est pas monnayable. Il est sans prix. Il est sans prix parce qu'il va t'accompagner comme un rêve, comme la peluche peut-être que tu vas garder toute ta vie. Et moi, par exemple, au matin, quand je me lève et que je vois que le verre de rhum du Père Noël est vide, eh bien, je me dis, voilà, il a pris un peu de force pour son voyage. Et bien entendu, heureusement qu'il ne mourra jamais.
Merci Bernadette Bricou. Denisa Kershova racontait cette semaine sur France Musique que quand elle était enfant, elle se promenait avec un panier que les enfants chantaient, qu'ils recevaient des cadeaux et s'ils n'avaient pas été sages, des morceaux de charbon. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, nous saurons depuis quand existent les photos de classe, pourquoi il n'y a pas de loup en Belgique et si on peut mélanger un ADN d'humain avec un ADN de lézard. Et oui, c'est comme ça. Thierry Collignon est historien, il a écrit des livres que nous adorons au Petit Bateau, édités chez Mango Jeunesse et peut-être épuisés à l'eau bibliothèque.
Bonjour, je m'appelle Sim, j'ai 5 ans et demi. On veut savoir à quel âge on pouvait s'entraîner pour être chevalier. Merci, au revoir.
Ah bah on peut commencer très jeune. Pour être chevalier, il faut commencer par faire des exercices physiques assez difficiles et assez durs. Donc il faut déjà apprendre à monter à cheval, il faut apprendre à se battre, à l'épée, à la lance. Il faut apprendre les combats au corps à corps, il faut apprendre l'adresse, il faut apprendre beaucoup de choses. Mais enfin, le plus important pour être chevalier, c'est d'avoir les moyens de s'acheter un cheval et une armure. Donc, on peut commencer très jeune les exercices, mais on pouvait pas être chevalier très tôt parce qu'il fallait quand même avoir de l'argent. Alors, ou bien on était d'une famille noble et c'était pas très compliqué d'être chevalier, ou bien si on n'était pas d'une famille noble, il fallait se débrouiller pour se faire offrir le cheval et l'armure par quelqu'un. Enfin, c'était pas très simple. Mais fallait se faire sponsoriser, oui. Mais certains y arrivaient quand même. Mais les enfants commençaient très très tôt, à peu près à l'âge auquel vous allez à l'école aujourd'hui, ils commençaient les exercices physiques, ils commençaient à monter à cheval, ils commençaient à se battre à l'épée, à la lance, etc.
Avec parano, de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli. Cette fille sur la photo, jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là. Écrasant les premières étincelles, jalousie, c'est pas rien. Tu nous rends mal. Tu agis, mais c'est qui cette fille sur la photo? Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est belle. Te veux, je crois ça se voit. Jalousie me dit qu'elle est là, qu'elle est là.
Seulement moi j'ai peur que tu l'aimes. Jalousie me dit
Elle a raison, la jeune et jolie Angèle. La jalousie peut gâcher la vie. La chanson s'appelait « Jalousie ». Vous connaissez cette charade ? Mon premier a des dents, mon deuxième a des dents, mon troisième a des dents, mon tout est une chanson d'Angèle.
Jalousie !
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe de France Inter, des enfants posent des questions et des savants leur répondent.
Bonjour, je m'appelle Valère, je voudrais savoir si on pourrait mélanger des ADN d'humains et des ADN de lézards. J'ai 7 ans. Au revoir.
7 ans, eh ben dis donc, peut-être que tu deviendras comme le docteur Marc Péchanski, médecin, chercheur, vous êtes chercheur à l'INSERM, vous dirigez l'institut qui s'intéresse aux cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies génétiques et qui s'appelle
ISTEM.
ISTEM. Dites donc, vous étiez comme ça à 7 ans, vous, docteur
Marc
Péchanski ?
Valère, là tu me scotches, parce que, T'as raison, on peut mélanger des ADN humains et des ADN. Alors, je ne sais pas pourquoi tu choisis le lézard, mais tu as raison, on peut le faire avec du lézard. En fait, l'acide désoxyribonucléique, qui est la molécule essentielle pour le programme que chacune de nos cellules contient, cet ADN, il est formé d'éléments qui sont les mêmes pour toutes les espèces animales et même végétales. On est capable d'aller chercher des gènes dans n'importe quelle espèce et de les mettre dans des ADN appartenant à une autre espèce. Et ça a été une énorme découverte que cette possibilité de, comme ça, de mettre des bouts d'ADN d'un ADN à un autre, parce que ça a permis énormément de travail. Alors dans l'autre sens, hein, parce que finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir des bouts d'ADN humains chez les lézards ? Moi, je pense que oui, hein, même si c'est pas forcément sur les lézards que je travaille, plutôt sur les souris. Mais mettre des bouts d'ADN humains chez un animal, ben, ça peut nous permettre d'étudier, par exemple, les maladies qui sont liées aux défauts apporté par cet ADN. On va prendre un bout d'ADN chez des patients atteints, par exemple, d'une myopathie de Duchenne, hein, cette maladie dont le Téléthon parle tout le temps. Et puis, on va introduire
ça...
Une maladie des muscles. Et on va introduire ça dans une souris, puis on va regarder ce qui se passe, parce que ce gène, effectivement, il va être accepté par l'ADN de la souris, et il va même être accepté par les cellules de souris. On va pouvoir regarder les défauts que ça entraîne, sans avoir besoin pour autant d'aller regarder chez les patients et d'aller les embêter.
Vous préférez embêter les souris ?
C'est plus simple d'embêter les souris, ça pose moins de problèmes. Les souris sont des êtres vivants que nous savons parfaitement respecter hein, dans les laboratoires, mais c'est vrai que ça nous permet de travailler à la recherche de traitements, parce que si on arrive à traiter des souris, ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire chez les patients.
Le docteur Marc Péchanski a évoqué le Téléthon qui se termine donc ce soir, mais vous pouvez toujours faire des dons en appelant le 36 37 ou en allant sur téléthon.fr.
Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 6 ans et je voudrais bien savoir pourquoi il n'y a plus de loups en Belgique. Merci.
Bonsoir Lucille, nous proposons ta question à une ethnozoologue, Geneviève Carbone.
Bonsoir Lucille. En fait, il n'y a plus de loups parce que l'homme les a détruits et que, comme dans beaucoup de pays européens, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y a eu des volontés très affirmées de faire disparaître cette espèce qui nous interpellait, qui nous faisait peur, qui nous posait problème avec nos troupeaux. Et il a fallu attendre très 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 longtemps pour que cette espèce soit protégée. C'est la raison pour laquelle il a disparu, parce que personne ne voulait le sauvegarder. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il est protégé au niveau national, international, européen aussi. Et ça lui permet de revenir dans des endroits dont il était parti. Donc à partir de l'Italie, il est revenu en France. À partir de la Pologne, il est revenu en Allemagne. À partir de l'Italie, toujours, il est repassé en Suisse. Et donc peut-être qu'un jour, on aura à nouveau des loups qui pointeront le bout de leur nez en Belgique. Il faut juste savoir, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir ? Parce que lui franchit les frontières sans problème.
Geneviève Carbone, vous dites le loup est revenu en France. Comme apparemment il n'est pas revenu en Belgique, je pense qu'il n'est donc pas en France dans les Ardennes, il doit être en France ailleurs.
En fait, il est revenu depuis l'Italie et il a franchi les Alpes. Donc il est d'abord réapparu dans le massif du Mercantour, dans les Alpes du Sud. Petit à petit, il a colonisé les Alpes en remontant le long des Alpes. Après, il a fait ce qu'on appelle une dispersion. Donc il a traversé le Rhône, il est passé sur le massif central et il redescend vers les Pyrénées. Et petit à petit, comme ça, de massif en massif, il réoccupe un espace duquel il avait disparu. Donc les Ardennes, c'est peut-être pour bientôt.
Et tout ce trajet se fait à pattes. Geneviève Carbone a écrit un livre qui s'appelle « Les loups », édité chez Larousse, mais ça fait un moment. En revanche, le livre de Michel Pastoureau, « Loup », vient de sortir. Anita Ward a reçu le Grammy Award de la meilleure prestation vocale pour ce Ring My Bell. C'était en 1979. Tiens, tenez, puisque nous faisons un bond dans le temps, voici quelque chose qui nous rappelle souvent le passé, la photo de classe.
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 12 ans et je voudrais savoir de quand datent les premières photos de classe. Merci d'y répondre. Au revoir.
Ah, les premières photos de classe, Emma. Tu as raison de poser cette question. C'est vrai que c'est assez fascinant, les photos de classe, au point, Christine Charpentier-Boute, que vous avez consacré un livre aux photos de classe qui est édité chez L'Harmattan. Donc, vous pouvez répondre à Emma, Christine Charpentier-Boute.
Bonjour Emma. Les premières photos de classe sont apparues au milieu du 19e siècle, vers 1860. Avant, on ne possédait pas d'image de soi. Ce n'est que dans les familles riches qui pouvaient faire appel à un peintre ou à un graveur où on obtenait la fabrication de tableaux pour avoir une image de ses enfants ou de sa famille.
Donc c'était réservé aux riches.
C'était réservé aux riches et c'était assez rare.
Les appareils de photos sont apparus à peu près quand ?
Vers 1839, la photographie est une technique qui commence à être mise au point pour reproduire les images. Mais on a des difficultés à reproduire les gens, à reproduire le mouvement. Et ce n'est que vers 1860 que la technique devient opérationnelle. Alors, les premières photos de classe sont arrivées dans le privé, mais l'État a acheté la technique photographique, ce qui a permis une évolution importante de la technique. Et très rapidement, on a pu faire des photos de groupe dans les établissements. Alors, on a commencé par les établissements privés, les grands lycées parisiens ou de province, les établissements de prestige. Et puis, très vite, les enfants dans les écoles ont désiré cette photo. Et un autre bouleversement politique est intervenu en France. L'école, qui n'était pas obligatoire, est devenue obligatoire, laïque et gratuite.
Donc, ça, c'est en quelle année, l'école laïque, gratuite et obligatoire ?
Vers 1880. Et donc, tous les enfants ont été obligés d'aller à l'école. Et là, en 1900, il y a une grande exposition à Paris, une exposition universelle, et l'État français a désiré exposer lors de cette exposition universelle des photos de classe de toute la France. Et l'État a autorisé les photographes, parce que c'était interdit d'entrer dans les écoles quand on n'était pas écolier ou enseignant, a autorisé et a demandé aux photographes ambulants de faire un reportage photographique sur un maximum d'écoles de village. Ces photos ont été exposées à Paris et beaucoup ont été vendues, proposées à l'achat aux familles qui étaient ravies d'avoir le portrait de leur enfant. À cette époque-là, on n'avait pas la photo, coûtait très cher et on n'avait pas la possibilité d'avoir le portrait de son enfant dans sa maison.
Donc en fait, si je comprends bien, Christine Charpentier-Boud, c'est un mélange de progrès techniques, d'options politiques et aussi peut-être du regard qu'on a sur l'enfant.
Voilà, l'enfant, avant cette école obligatoire, était un peu considéré comme un petit adulte. Il était obligé très souvent d'aider ses parents, il n'allait pas à l'école. Et le statut de l'enfant a changé à cette époque-là. Il est devenu vraiment un enfant, comme toi aujourd'hui, Emma. Et les parents ont eu envie d'avoir une image de lui dans la maison.
Ce qui est drôle dans ce que vous racontez, c'est qu'en fait, ces premières photos étaient exposées au public.
On l'a proposé aux familles à l'achat et en même temps, elles étaient exposées. Et il y a de grands lycées parisiens ou de grandes écoles, mais aujourd'hui également des écoles maternelles, élémentaires, où on a toute la collection de toutes les photos de toutes les classes de l'établissement.
Imaginez qu'un lycée, disons, du 9e arrondissement de Paris, sur une photo de classe, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, ce serait rigolo, ça vaudrait de l'or. Sur la photo de classe des petits bateaux, ce soir, Maximin Grand, Jean-Baptiste Audibert, Marie-Claire Matout, Eliane Girard, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, venir sur notre site par franceinter.fr. Je vous laisse avec Denis Chessoux.